Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, guten Abend, bonsoir, good evening, wie geht's? Do you feel good? Comment ça va? Bien! Bon!
Amis auditeurs, amis auditrices, il est 22h et c'est bien l'heure de la causerie, comme presque tous les dimanches. Et ce soir, dans les studios, nous avons Fab.
Bonsoir et bonsoir Jean-Yves à la technique.
Bonsoir. Donc vous ne vous plaindrez pas si le son n'est pas formidable.
Eh ben oui, parce qu'on fait un bisou à Clara qui n'a pas pu venir ce soir.
Tout à fait. Eh ben, tu tiens le crachoir, donc tu vas le garder. tu vas...
Même pas une intro pour dire que c'est la 508e. Non, rien que dalle, c'est parti.
Non, rien, ouais.
Ah, on y va comme ça.
Ouais.
Allez.
J'en profite pour faire un petit bonjour à Fabrice.
Ah oui.
Ou Fabien.
Fabrice. Non, Fabien, c'est moi. Et ouais, c'est Fabrice ça. Qui nous a écrit.
Tout à fait. Donc voilà. Et ben,
oui, merci pour le
retour.
Le retour sur le blog.
C'est tout voilà. À fait ça.
Enfin, sur les petits défauts du blog. C'est sympa, on va corriger ça.
C'est ça. Et ben oui, donc Fab, c'est toi qui tiens un crachoir pour commencer. Et toi, tu vas nous parler science, découverte et puis un peu de réflexion aussi, finalement.
Ouais, autour de tout ça. Autour de tout ça, en fait, j'avais mis un titre un peu bateau. C'était parfois la science se trompe, mais elle le sait. Alors, voilà. Alors c'est intéressant de voir que les sciences sont des terrains de jeu énormes, jeux dans le sens de plaisir de découvrir et d'apprendre. Ce qui est encore plus passionnant, c'est que les sciences sont construites sur le prérequis qu'elles ne sont jamais définitives. Et c'est des rares domaines quand même de la vie où les scientifiques disent non, on peut trouver toujours d'autres choses, de nouvelles choses, voilà. J'en parle souvent dans l'émission, et voici d'ailleurs quelques nouvelles du moment, qui peuvent vous intéresser, mais surtout qui démontrent que la remise en question de données que l'on pensait vraies n'est jamais un drame pour les scientifiques, et même finalement pour nous, tout simplement. Alors je vais commencer par le fait que l'univers, il aurait fait une petite cure de jeunesse. Depuis quelques années, on avait dans l'idée que compte tenu des connaissances que l'on a, voilà, l'univers avait 13,8 milliards d'années. Voilà, c'est une estimation qui était donnée et qui était, on va dire, majoritairement reconnue comme étant le bon chiffre.
Qui faisait consensus.
Qui faisait consensus, voilà, exactement. Et puis, on a évolué en termes d'outils d'observation, genre le télescope James Webb, dont j'ai déjà parlé dans l'émission, mais aussi en termes d'outils de calcul qui permettent de mettre en place de nouvelles théories plus fines, plus proches de la réalité, comme on dit. Et figurez-vous, qu'on a découvert qu'on s'était planté, a priori, voilà. Alors, on ne sait pas de combien d'années exactement, je ne sais pas si c'est de centaines, de milliers, de millions d'années. En tout cas, les scientifiques disent que ce n'est pas de milliards, par contre, ça c'est sûr, donc c'est autour de 13 quand même, en 13-14.
Donc tu veux dire qu'on ne va pas passer de 13 milliards à 6 000 ans,
non.
Comme peuvent le prédire les religions.
Ouais, alors, c'est marrant que tu parles de ça, parce qu'il y a justement les créationnistes qui ont sauté sur cette nouvelle,
oui,
pour dire, ils vont vous dire que c'est la Bible qui a raison. Non, voilà, ni la Bible, ni le Coran, ni la Torah, ni ce que vous voulez. Non, c'est juste qu'en fait, on va affiner le chiffre. Voilà. Alors, il y a des scientifiques qui disent, on va peut-être perdre 1 milliard d'années, mais à l'échelle de l'humanité, c'est pas grand-chose. Donc, c'est beaucoup de temps, mais en fait, nous, on voit très peu de ce temps. Donc,
sur 13 milliards, ça va, 1 milliard.
Voilà, c'est ça. Mais donc, on ne sait pas de combien d'années, mais en fait, il semble que l'univers soit un peu plus jeune qu'imaginé. Parce que l'univers est content, du coup. Il s'en fout complètement.
Ça fera moins de bougies.
Je ne sais pas. Alors, ça a l'air de rien, mais c'est une petite révolution quand même. C'est un changement majeur de point de vue sur le temps et sur l'évolution de l'univers. Ce qui est quand même pas banal, hein, de se dire, tiens, il va falloir réfléchir autrement. Et il va du coup peut-être falloir que l'on revoie les modèles cosmologiques. C'est autrement dit les lois qu'on a collées sur l'univers. C'est-à-dire qu'en fait, ben oui, c'est pour ça qu'on parle de modèles. C'est d'où le nom. Pourquoi tu ris?
Parce que j'ai une blague de merde.
Non mais oui, mais ça m'aide pas, on est non, déjà que est deux. Alors d'accord. Vas-y, fais ta blague de merde.
Ah non, non, c'était juste. Donc, ça, est-ce que ça change quelque chose sur Vénus qui a rencontré Saturne ou
non, ça c'est astrologique et ça n'a rien à voir.
Oui, pardon, c'est non, tout voilà. Ce que je voulais dire.
C'est pour ça que j'ai utilisé le mot de cosmologie, hein, parce que les astrologues ont volé le vrai mot. Oui. Donc voilà, tout simplement. Comme Georges nous l'avait expliqué il y a quelques années de ça. Et en fait, donc, il va peut-être falloir qu'on revoie quand même ça de fond en comble, c'est-à-dire qu'on reprenne bah, chaque affirmation, chaque donnée pour se dire bah, peut-être qu'on a fait une micro-erreur à ce moment-là et que cette micro-erreur cumulée à plein de micro-erreurs, bah, ça fait qu'on a un petit peu surestimé l'âge de l'univers. Est-ce que vous avez vu des gens se suicider suite à cette annonce? Non, a priori.
Je ne crois pas.
Des scientifiques sauter par la fenêtre? Non plus. Hein. Non, au contraire, hein, c'est plutôt l'excitation qui prédomine dans le monde des sciences du cosmos. Bah, il faut maintenant vérifier, corroborer, consolider cette hypothèse hein, qui repose sur l'observation plus fine du mouvement des galaxies satellites et de leur implication sur l'estimation de l'âge de l'univers. Alors, l'étude en question elle a été menée par Guo Qi, oui, je crois que ça se dit comme ça. Oui, Guo Qi et son équipe qui était pluridisciplinaire. Alors ça aussi, c'est un peu une nouveauté dans les sciences. C'est la pluridiscipline. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas que des spécialistes en cosmologie. On a dans la même équipe des gens qui sont spécialistes en informatique, spécialistes en sciences. Voilà, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose parfois de plus fou comme hypothèse de débat, mais de plus dynamique dans la résolution.
Oui, c'est ça, parce que chacune va venir avec en fait
bah, son
domaine et finalement, ça permet de croiser, de peut-être comment dire, d'évoquer des pistes
ouais.
Qui finalement dans un entre-soi ne seraient peut-être pas évoquées en fait aussi.
Ben c'est ça, et puis surtout ça.
Ou de contrer, ou de. Enfin, je sais pas comment dire, ou de répondre.
Ouais, ouais, ou d'avoir du doute. Oui. C'est-à-dire de dire, t'es sûr? Voilà, il travaille pour l'Observatoire Astronomique National de l'Académie Chinoise des Sciences. L'Académie chinoise des sciences, je vous rappelle, c'est celle qui a été créée pour envoyer des taïkonautes dans l'espace, hein, qui ont même fait une station spatiale. Donc voilà, donc c'est pas non plus, c'est ce que disaient les gens, parce que tout de suite, il y a des gens qui ont dit, oui, mais c'est des Chinois. Alors les Chinois, ils savent bien calculer, hein, ça va, ils sont pas mauvais. En fait, ils ont utilisé pour ça ils ont d'abord publié ça dans Nature Astronomy, donc c'était avec relecture. Donc, c'est-à-dire, c'est pas juste une hypothèse,
oui, validé.
C'est validé par des gens qui ont relu qui ont dit, bah oui, ça, c'est pas bête, voilà. Elle a fait appel à cette équipe à des outils d'intelligence artificielle, pour pouvoir mener des calculs à très grande quantité. À très grande échelle et rapidement. Alors ça a l'air de rien, mais en fait, on se rend compte de plus en plus que la révolution de l'intelligence artificielle permet, en fait, d'aller plus vite. Et ce qui aurait peut-être pris 30 ans pour faire une hypothèse prend aujourd'hui un an, par exemple. C'est l'exemple que donnait Guo Qi et qui disait, les calculs qu'on a fait, on aurait dû mis quasiment 30 ans à les faire avant.
Oui, ce qui démontre encore une fois qu'un outil, en fait, c'est qu'est-ce qu'on en fait,
et
à quoi il sert, en fait. Et que l'intelligence artificielle, il y a des fois où, en fait, ça peut servir utilement, on va dire, l'humanité, quoi.
Tout à fait. Mais je pense d'ailleurs que ça la sert utilement, majoritairement.
Oui, oui, voilà, mais c'est parce qu'on,
On joue beaucoup à se faire peur, mais il faut voir aussi qui agite les peurs. C'est aussi ça qui est derrière.
Oui, voilà. Oui, mais après.
Je fais une petite parenthèse.
Oui, pardon.
Comme je l'avais dit l'autre fois. Quand Elon Musk arrive à vous dire, j'ai peur, il faut faire une pause, c'est juste qu'en fait, il est en retard. Et qu'il a besoin que sa boîte, elle aille plus vite, elle rattrape les autres. En fait, c'est ça ce qu'il faut voir. C'est qui agite les peurs. Et le problème, il y a beaucoup de scientifiques qui disent aujourd'hui, il y a des risques. Il faut pas les minimiser. Mais on n'est pas dans Terminator et Skynet n'existe pas encore. Et comme le dit très bien, alors je me rappelle plus le nom de cette
Salma quelque chose.
Ouais,
qui est une spécialiste de
des IA, de l'intelligence artificielle. Elle dit en fait ça reste des ordinateurs, donc ça se débranche. Hein.
Oui.
C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, on peut même couper l'internet mondial s'il y a besoin. Elle dit en fait tout est possible. Donc elle dit faut arrêter, on a encore le on/off, c'est encore nous quoi. Donc voilà, et rien que ça devrait quand même nous faire réfléchir sur le fait que parfois on joue à se faire peur. Voilà. Et après, ça amène plein d'autres questions éthiques et autres, mais ça, c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant.
Oui, mais je pense que l'histoire de l'humanité, c'est dès qu'il y a quelque chose de neuf,
on a peur.
On a peur.
C'est souvent ça. Alors, j'ai pris un autre exemple. Alors, lui, il est un peu franco-français, cet exemple, mais il est intéressant. C'est à propos du TDAH, hein, donc qui aurait un impact sur le cerveau. Alors, le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, alors que les psychologues de tout poil, alors j'ai bien psychologue, tentent de s'accaparer le fait de pouvoir soigner le TDAH, hein, donc le trouble, je redis, déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, les neuroscientifiques étaient assez sceptiques sur le fait que ce trouble ne relève que de la psyché, au sens freudien du terme. Hein. Alors, ça me permet de rappeler au passage que les psys, ben, c'est pas des médecins, et que la psychologie, eh ben, c'est pas une médecine. Et puis, ça repose pas vraiment sur des trucs qu'on vraiment bâti. C'est une croyance. Voilà. Donc, c'est pas grave, hein. Mais, non, il n'y a pas en psychologie, je dis bien en psychologie, il n'y a pas de preuves. C'est-à-dire qu'on a fait des présupposés, mais on n'a jamais pu prouver. Donc c'est un peu embêtant quand même. Voilà, je ferme la parenthèse. Bon, donc les neuroscientifiques, ils se sont dit, bon, faut quand même qu'on se penche sur le problème. Donc ils ont monté, eux aussi, des équipes pluridisciplinaires. Donc il y avait des neuroscientifiques, des neurologues et des psychiatres dans les équipes, ce qui est quand même pas mal. Je rappelle que les psychiatres sont des médecins. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas psychologues, ils sont psychiatres, donc c'est-à-dire spécialistes des troubles du cerveau. C'est important de le rappeler. C'est pas la même chose, c'est pas la même famille, c'est, d'ailleurs, ils s'entendent rarement.
Ce qui ne veut pas non plus dire quand même que la psychiatrie est blanchie de toute action.
C'est pas ce que je... Non, c'est pas ce que je dis.
Non, je n'ai pas dit que c'est ce que tu as dit, mais c'est pour contrer tout de suite ceux et celles qui pourraient penser de l'autre côté du poste qu'on est, complètement, comment dire, tu vois, béni oui devant la psychiatrie.
Ouais. Mais par contre, je vais dire un truc, c'est que la psychiatrie relevant de la médecine, vous pouvez attaquer un psychiatre, vous ne pouvez pas attaquer un psychologue. C'est un exemple, par exemple. Oui. Pour le psychologue, ça relève de le développement personnel. Donc voilà. Ils ont donc décidé de tenter une étude d'ampleur chez les personnes atteintes de TDAH. Alors pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'en fait, ils s'interrogeaient sur comment ça marche. C'est tout bête, hein. C'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait quand même ce qu'on appelle des faisceaux d'égalité, c'est-à-dire des façons d'être assez similaires d'une personne atteinte à l'autre, sans que ce soit parfaitement similaire, mais il y avait
des choses qui faisaient dire.
Et ce qui a quand même un peu soulevé chez les neuroscientifiques en particulier, l'idée que souvent quand des gens agissent de la même façon, ils ont un peu le même schéma mental. Alors chez les neuroscientifiques, le schéma mental, c'est ce qui se passe dans votre cerveau. Hein. C'est pas freudien. On regarde votre cerveau avec un appareil, puis on regarde comment
c'est la mécanique du cerveau.
C'est la mécanique, tout simplement, c'est ça. Donc ils ont fait en fait finalement un scan cérébral sur plus de 6000 personnes, tout simplement, hein, pour avoir un panel suffisamment large pour étayer des hypothèses et surtout voir si l'hypothèse, elle se vérifiait, parce que c'est ça qui était important. Et ils ont donc découvert qu'il y avait des motifs de connectivité cérébrale spécifiques associés à toute personne atteinte de TDAH. Alors la connectivité cérébrale, c'est la façon dont votre cerveau fait circuler les informations. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, chez ces 6000 personnes, dans plus de 94% des cas, il y a en fait une similarité. Donc, c'est-à-dire que c'est peut-être plutôt votre cerveau qui s'est construit bizarrement, qui fait que vous avez un TDAH,
différemment,
pardon pour l'expression, elle était maladroite, différemment, qui fait que vous avez un TDAH, plutôt qu'en fait quelque chose d'autre. Donc, il y a bien une spécificité du cerveau chez les personnes atteintes, et le diagnostic, en fait, pourra être fait sur autre chose que des entretiens subjectifs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que le TDAH, majoritairement, et en particulier en France, il est fait sur entretien. C'est-à-dire qu'on vous demande, alors est-ce que vous êtes, vous vous réveillez la nuit? C'est très subjectif. Et en fait, alors il y a des pays où justement ça l'est moins, mais la France c'est particulièrement un des pays où en fait on est très facilement classé TDAH, HPI, tout ça, alors que on n'a pas forcément de preuves concrètes ou autres que des entretiens réguliers. Puis après on dit il présente il y a un faisceau de preuves qui fait que c'est un peu léger en fait. Donc voilà, il faut savoir que là où pourquoi les neuroscientifiques que ça les interpelle, c'est que souvent ces personnes-là, on les traite. C'est-à-dire qu'on leur donne des traitements. Et en fait, leur question, c'était est-ce qu'ils sont utiles, ces traitements? Et surtout, est-ce que les gens qu'on diagnostique comme tels sont vraiment atteints?
Oui, en plus, c'est hyper compliqué de démontrer que quelque chose fonctionne si tu n'as pas de...
Si t'as pas de base départ, quoi.
Oui, c'est ça que je veux dire.
C'est vrai que c'est très très subjectif aujourd'hui, ou de moins en moins, hein, mais voilà. Donc ça démontre quand même pour eux que ce trouble est bien lié à une façon dont le cerveau s'est formé, bien plus que sur l'enfance du patient, comme trop de psychologues le disent, ou disent bah le trouble ça vient d'un manque de réceptivité à l'enfance, des choses comme ça, qui n'ont aucun fondement scientifique. Donc la recherche indique donc que le TDAH est lié à des particularités fonctionnelles et structurelles du cerveau, et donc pas un manque de volonté ou de cadrage chez les personnes atteintes, parce que ça aussi c'est quelque chose qu'on dit, on dit mais tu peux bien quand même te restreindre, t'as envie de faire des pancakes à 2h du matin, mais rendors-toi, bah non en fait, parce que les personnes atteintes de TDAH, bah souvent elles peuvent pas se rendormir à 2h du matin, elles ont l'obsession de faire un pancake, donc c'est comme ça, enfin, c'est pas toutes hein, je vous donne un exemple, je dis voilà, c'est comme ça, et on sait que ça fait partie
des mécanismes
voilà, et qui finalement, d'après les scientifiques, s'expliquerait par une connectivité particulière dans le cerveau qui passerait derrière en fait la zone qui régule le sommeil. Et ce qui fait qu'en fait, eh ben, on n'a pas sommeil. Parce que du coup, on switch le sommeil, ce qui est un peu embêtant.
Un petit peu, ouais.
Donc, c'est un très grand pas en avant, quand même, dans la compréhension. Et dans les soins potentiels. Parce que ça aussi, il y a une idée aussi derrière de pouvoir soigner. Et comme disent les neuroscientifiques et les psychiatres qui menaient l'étude, leur but est bien de soigner avec le moins de médicaments possible. Parce que c'est ça aussi qui est derrière.
Trouver
de la médication s'il y a besoin, qui ne soit pas autant violente que ce qu'on donne aujourd'hui, parce qu'ils disent bah dans certains cas en fait on endort les gens.
Oui, mais de toute façon avec un diagnostic qui sera plus fin, plus précis,
bah on est meilleur.
Bah tu risques de mieux cibler en fait les choses et de pouvoir mieux soigner, ou en tout cas oui apporter une aide médicamenteuse
plus adaptée en fait.
Plus adaptée,
ouais, ouais. Tout simplement. Donc sur le magazine, sur le site Trust My Science, que je vous conseille, qui est un excellent site, on peut lire parce que je l'aurais piqué, hein, donc pardon, copyright. Pour mener à bien cette étude, l'équipe de recherche a mis au point une méthode d'analyse des images cérébrales qui s'éloigne des techniques traditionnelles, qui sont souvent focalisées sur des zones cérébrales isolées. En utilisant l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle en état de repos, alors je vous donne pas les termes technique, mais ça s'appelle le RS fMRI.
Mais tu les donnes quand même.
Ouais, ou IRM-ER en français. Voilà. Si quelqu'un qui écoute est au courant, il pourra dire oui, c'était ça. Ils ont pu observer en fait l'activité cérébrale globale sans demander aux participants de réaliser des tâches spécifiques. C'est en gros, on a observé le cerveau quand il dort. Quand il est calme, quoi. Quand il est normal, enfin, quand on fait rien de spécial, en fait, voilà. Et donc, ils se sont dit, si on trouve quelque chose à ce moment-là, c'est qu'il y a une formation du cerveau particulière. Voilà. Cette approche a permis de capturer les modèles de connectivité naturelle du cerveau, offrant ainsi une vue d'ensemble de son fonctionnement. Le score polyneuro, le PNRS, oui, alors retenez pas ça, c'était juste pour que l'histoire de score a été...
C'était juste pour te la péter, quoi.
Non, c'est juste que ça a été conçu à ce moment-là pour synthétiser ces informations en un indicateur unique. Ça permet en fait de voir...
C'est une
échelle de mesure. Ils ont créé une échelle de mesure pour, de façon à pouvoir voir d'une personne à l'autre où elle se situait. Reflétant la connectivité cérébrale associée au syndrome du TDAH chez les enfants. Donc voilà, donc ça, ils ont vraiment, c'est ce qu'ils ont fait. Donc l'étude, elle a ainsi pu être menée grâce à la pluridisciplinarité, mais aussi du fait de la mise au point d'outils d'intelligence artificielle pour traiter les données plus précisément. Et oui, c'est-à-dire qu'en fait, on a pu aller plus vite et compiler plus de données. Ça sert à ça, l'intelligence artificielle, qui, je vous le rappelle, n'est qu'un agrégeur de calcul, hein, ni plus ni moins. Donc l'enjeu, il est de pouvoir faire des diagnostics précoces chez l'enfant. Parce que c'est ça qui est important. Parce que comme rappelé dans le même article, rappelons qu'identifier le TDAH dès le plus jeune âge peut grandement améliorer la qualité de vie des personnes concernées, ainsi que celle de leur entourage. Il a été constaté que les individus non diagnostiqués jusqu'à l'âge adulte présentent un risque de décès prématuré 4 fois supérieur à la moyenne. Donc c'est important quand même de le savoir le plus tôt possible. Le diagnostic est donc finalement un enjeu crucial. Voilà, et donc c'est une avancée scientifique. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que si vous vous étiez arrêté à ce qu'on dit en France depuis des années, que le TDAH n'est pas un vrai trouble et que ça relève de la psychologie, eh bien on n'aurait pas pu soigner des milliers de personnes. C'est un peu embêtant. Donc voilà, pourquoi des fois il faut que les scientifiques se penchent un petit peu sur le problème pour dire « t'es sûr que c'est que dans la tête ?» Voilà, c'est une façon de parler. Mais ouais. Donc c'est deux exemples, hein, que je voulais vous donner pour comprendre que la science n'est pas figée. Parce que vous voyez, c'est des croyances qu'on avait, puisque, enfin des pas des croyances, non, c'est pas des théories qu'on avait, vérifiées, puisque croyance c'est pas le bon mot, et qui finalement s'avère un peu fausse. Donc il faut revoir nos théories et les modifier. Si on fait attention aux deux exemples que j'ai donnés, on se rend compte que l'accélération des découvertes vient aussi de l'amélioration des outils globalement et de la généralisation de l'IA, l'intelligence artificielle, comme outil de support et de soutien. Mais aussi du fait que les sciences s'imbriquent de plus en plus et que les études sont maintenant plus facilement pluridisciplinaires, ce qui permet d'aboutir souvent plus vite et de trouver parfois des chemins qu'on n'attendait pas. Alors, je fais une toute petite parenthèse sur un truc totalement anecdotique, mais qui est très drôle. Il y a une équipe qui travaillait depuis des années à faire un élastique qui ne rompt pas dans l'espace. Oui, bon, cherchez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Quand ils vont dans le très très froid, vous voyez, quand ils rentrent dans l'espace, il fait hyper froid et ça avait tendance à se figer, machin. Et c'est une dame qui travaillait sur les crumbles qui a eu l'idée de rajouter un ingrédient et que ça a marché. C'est une scientifique qui travaillait sur comment le crumble fonctionne. Et en fait, ils ont croisé leur savoir. Et ils se sont dit, mais en fait, ça peut marcher, ça. Voilà. Parce qu'elle congelait les crumbles à l'azote liquide. Voilà.
D'accord.
Voilà. Donc, pourquoi la pluridisciplinarité, des fois, ça fait des choses assez amusantes, mais qui fonctionnent. Donc, il y a plusieurs philosophes des sciences et anthropologues qui pensent que la période que l'on vit va être aussi riche en découvertes et avancées que celle dite des grandes découvertes. Alors, ce qu'on appelle les grandes découvertes, c'est par exemple l'imprimerie avec Gutenberg, la découverte des microbes, puis des virus, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc tout ce qui s'est passé dans les siècles passés. C'est un moment passionnant qui peut ouvrir des perspectives énormes et qui peut nous faire évoluer dans la compréhension du monde qui nous entoure, comme de nous-mêmes finalement, en tant qu'espèce, de façon assez phénoménale. Exemple du TDAH, Face à cela, beaucoup de gens ont peur, ce qu'on disait, hein, car ça fait vaciller leur certitude et les choses qu'elles pensaient vraies pour toujours. C'est un peu comme quand on a enlevé Pluton comme planète et que les gens disaient, mais moi on m'a appris que c'était 9, bah non, il y en a que 8, voilà, bon bah faut réapprendre qu'il y a que 8 planètes, quoi. Et comme on le dit souvent dans cette émission, c'est là qu'on voit le manque de sensibilisation aux sciences et comment cela fonctionne. Parce que ça vient de là, en fait, hein, cette peur. La semaine dernière, Jean-Yves, tu nous parlais de ce que le gouvernement actuel voulait mettre en place pour la jeunesse. On a bien compris.
Oui, tu veux dire l'armée, l'uniforme, voilà.
On a bien compris.
Et le théâtre.
Et on notera quand même que les sciences sont minimisées, voire mises de côté, une fois de plus. Vous voyez, quand par exemple on dit on va enlever la technologie au collège, parce que ça sert à rien, et on va mettre à la place un cours d'éducation civique. D'instruction civique, pardon, parce que c'est pire que l'éducation. Instruction civique, c'est-à-dire qu'on revient aux années 50.
Et morale, je crois.
Et morale, ouais. Et en fait, c'est-à-dire qu'on pense que c'est plus important que les gens apprennent à être de bons citoyens, que finalement, comprendre le monde qui les entoure. Parce que c'est ça la technologie, hein, je suis désolé, hein, mais comprendre l'électricité, ça paraît bête, mais c'est aussi une approche des sciences, voilà. Pourtant, l'enjeu, hein, pour nous, il est énorme, globalement. Loin de nous asservir, les sciences sont des outils d'émancipation, à condition qu'elles ne restent pas dans les mains d'une caste affidée aux multinationales et aux riches. Parce que c'est ça le problème qui se présente aujourd'hui. Et aussi à condition qu'on ne confonde pas technologie, technique et savoir, qui sont trois choses très différentes. Voilà.
Et je rajoute, et capitalisme.
Oui, capitalisme, c'est pour ça que j'étais riche. C'était l'idée de dire, ouais, moi, t'as raison, j'aurais pu mettre capitalisme.
Non, je l'ai oublié. Mais c'est pas grave, une sorte de complémentarité.
Ouais, mais en fait, en tout cas, c'est ça qui est important. Et avec l'accélération des connaissances et des découvertes, il va nous falloir vraiment se pencher politiquement, au sens gestion de la cité, hein, comme on le dit à chaque fois, sur tout cela. Et pour éviter le rejet des sciences, une étude récente démontre qu'aux USA, le rejet des connaissances liées aux sciences atteint 49% des personnes interrogées, par exemple. C'est énorme, hein, une personne sur deux.
Et t'as pas trouvé un truc comme ça sur la France ?
Non, parce que c'est assez rare que ce soit fait en France, alors que c'est assez fréquent aux US qu'il y ait des campagnes qui soient faites. Mais je me souviens quand j'avais présenté une étude qui disait que, par exemple, il y avait encore en France, je crois, 9% des gens qui croyaient que la Terre était plate, et que chez les plus jeunes, c'était jusqu'à 17%, ce qui était assez énorme. Mais on voit que oui, il y a un vrai rejet. Et donc, il faut que nous en fassions, en fait, finalement, une part de nos vies, de ces sciences, parce qu'elles font partie de la vie, ni plus ni moins. D'autant plus que finalement c'est passionnant, puis c'est en mouvement. Donc comme c'est en mouvement, il y a toujours des trucs à apprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on ne s'ennuie pas, c'est ça qui est bien.
Bah oui, et puis ça apprend vraiment un truc. Enfin, moi, c'est avec toi et d'autres scientifiques que j'ai pu, on va dire, saisir ce truc de, effectivement, il n'y a rien de... Enfin, encore une fois, le mec qui raconte sa vie. Non, mais moi qui viens plutôt d'un milieu, on va dire, mystique, etc. Enfin bref, tout ça. En fait, t'as une habitude de ne pas réinterroger les choses. Alors qu'en fait, la science, en fait, elle porte en elle-même.
Pardon.
Le micro qui bouge.
Oui.
Alors que la science, en fait, en tout cas dans une pratique, on va dire.
Dans une vraie pratique scientifique.
Ouais. Y a cette remise en question qui est. perpétuelle, en tout cas elle est toujours présente, et c'est une option dans tout le reste en fait. C'est-à-dire que bah, potentiellement on va remettre en question un savoir qui a été acquis il y a je sais pas combien d'années, et ça c'est quand même... Enfin, je pense que c'est vraiment une force, même pour l'humanité en soi, quoi. Enfin, il y a un truc vraiment de...
Et puis, on découvre presque tous les jours, je sais pas comment dire. En fait, c'est ça qui est passionnant. C'est-à-dire qu'en fait, on remet en question certains acquis. Ça veut pas dire que tout est remis en question. Tout est faux. Mais c'est-à-dire qu'il y a des choses dont on avait une certaine certitude. Puis, on se rend compte que finalement, ah bah non, ça marche pas exactement comme ça.
Oui, oui. Je veux dire, il suffit pas d'avoir des cheveux longs et une barbe de druide pour dire ça fonctionne. Non, en fait, il faut une démonstration aussi. Pour démontrer que ce qu'on pensait jusque-là n'était pas juste, ou en tout cas n'était pas le plus juste, mais il y a quand même cette notion de...
On peut
remettre
toujours en
question les choses.
Mais il y a des gens qui, une fois, je fais une parenthèse, par exemple, je vais raconter ma vie. J'avais fait une présentation à des élèves, je crois de mémoire, CM1 ou CM2, et il y a quelqu'un qui m'a dit, enfin un élève qui m'a dit « Oui, mais alors je comprends pas pourquoi il y a des gens qui sont payés à recalculer Pythagore régulièrement. » En fait, je lui disais « Parce qu'en fait, il faut revérifier toujours si ça marche. » Et ça l'avait surpris. Et je dis « Bah oui, parce que toi, tu l'as appris, sans doute, je pense qu'il devait être dessus, le pauvre. » En fait, voilà, c'est vrai. Peut-être sixième. Ouais. Et donc, du coup, ouais. Mais c'était assez marrant parce que, du coup, il avait, donc son prof lui avait dit, mais il y a des gens qui revérifient Pythagore régulièrement. Et ça le surprenait. Mais en fait, c'est ça la science. C'est-à-dire que régulièrement, on revérifie. Parce que des fois, en revérifiant avec un regard neuf, bah, il y a des gens qui se disent, ah, mais peut-être qu'on peut, hop, switcher un peu ça. Ah, bah, donc, du coup, ça marche pas exactement comme on l'avait pensé. Et c'est ça, en fait, oui. Réinterroger en permanence. C'est ça
qui est... Et en même temps, enfin, je pense que aussi, c'est
Pythagore, ça marche.
Hein. Non, mais après, c'est aussi cette difficulté à, comment dire, à diffuser la science. Enfin, je pense, après, c'est pas pour désigner des responsables, mais je pense que est-ce que les scientifiques n'ont pas aussi une responsabilité là-dedans, quoi?
Bah,
c'est-à-dire,
oui.
Non, mais c'est idiot. Mais par exemple, alors. Je prends une émission, je prends une radio par exemple autogérée, Radio Canu,
il y en a assez peu.
Qui serait assez matérialiste, je dis assez hein, parce que des religiophiles il y en a partout, mais et en fait c'est dommage, mais il n'y a pas d'émission
de science. Bah, on en fait un peu dans la causerie, mais c'est pas notre cœur.
C'est dommage, et après je peux prendre d'autres exemples, d'autres radios, d'autres radios associatives, etc. Oui, je veux dire, il n'y a pas une pression de l'audience qui ferait que, savez, la science ça intéresse personne, etc.
Il y a Radio Libertaire qui a eu très longtemps une émission de science, qui était animée... médecine puis science au sens large, qui était animée par Mohamed et qui était une super émission de vulgarisation. Oui. Mais par contre, moi je sais pourquoi il n'y en a pas beaucoup, parce qu'en fait, les scientifiques, ils ont un peu peur. Ouais. D'abord parce qu'ils sont souvent pas aimés, et c'est une réalité, et souvent montrés du doigt. Et alors la période Covid, je vous dis pas, parce que beaucoup se sont pris dans les dents. Donc ils ont un peu peur de venir. Par contre, il y en a qui le font. Moi, j'étais à Yggdrasil aujourd'hui, et il y avait une partie qui s'appelait Demain en mieux, et qui était en fait que des scientifiques qui venaient montrer sur quoi ils travaillaient, et j'ai trouvé ça passionnant et génial, parce qu'il y avait des gens qui c'était un peu nouveau pour eux, et on sentait que c'était pas toujours à l'aise pour parler. Bon, il y avait un gars du CNES qui était super à l'aise, parce que lui on sentait qu'il faisait souvent des conférences, mais le CNES c'est l'espace.
Oui, oui.
Mais il y avait par exemple des élèves de DUT ou d'école d'ingénieurs qui étaient là et qui présentaient ce sur quoi ils travaillaient. Et en fait, c'était passionnant. Parce que ils y mettaient de l'envie, et surtout ils savaient descendre le niveau. C'est-à-dire qu'ils...
En fait, c'est ça. C'est ça nécessite aussi.
Enfin, vulgariser. Pardon.
Pardon. En fait, ça nécessite aussi à celui ou celle qui sait de se dire. Bon, ok, faut pas que je me parle qu'à moi-même et à mes semblables.
Ouais.
Comment je peux expliquer mon savoir, etc. En vulgarisant sans perdre. Enfin, on perd toujours un petit peu certainement par rapport à des spécialistes, mais. Et je pense que ça, c'est quand même aussi, je pense que peut-être que longtemps quand même, même là, ça démontre qu'il y a de plus en plus de pluridisciplinarité.
C'est dur à dire.
C'est peut-être aussi qu'il y avait un entre-soi qui était un peu entretenu aussi.
Ah, bien sûr, mais ça, après, ça vient du passé. Mais ça a explosé. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est maintenant dans le pluridisciplinaire tout le temps, et c'est cool.
Donc,
et maintenant, je pense que ce qui manque, c'est d'avoir de nouveau des émissions de radio, de télé. Il y a, par exemple, alors, je vais faire un peu de pub, mais il y a Le Monde de Jamy qui n'est pas trop mal fait. Il y a Science Grand Format qui est très bien fait aussi sur France 5. Mais ça reste sur des chaînes confidentielles. Moi, j'espère qu'un jour, des chaînes qui sont pas des chaînes les plus regardées. Moi, j'aimerais qu'il y ait aussi ça sur des grandes chaînes et sur des plateformes où on mette autre chose que le secret des pyramides, où on raconte n'importe quoi. Il y a une aberration scientifique toutes les deux secondes. Il y a quelque chose, quelques trucs sur le cosmos, notamment sur certaines plateformes qui sont très bien faites. Mais voilà, ça manque un peu parce que c'est vraiment passionnant. Bah, je vous jure.
Oui, mais je me dis, ami auditeur, auditrice,
c'est si, pas que
tu,
le cosmos,
es, si tu es scientifique et que tu as envie de parler,
mais viens, viens présenter ce
pas,
que tu fais.
Vraiment, je pense que c'est vraiment intéressant. Si tu es prêt à toi aussi à dire, bah, tiens, je vais essayer de transmettre des choses, enfin, je trouve que ça peut être vraiment intéressant.
Et puis, si tu viens à la cause. T'as un bon indicateur, c'est Jean-Yves, c'est quand il commencera à faire des yeux de Bernard Fry, c'est qu'il a pas compris, il faudra recommencer.
C'est exactement ça.
Donc moi j'ai fini ma chronique quand même, mais moi une fois de plus, j'ai quand même l'espoir, sans doute vain et idiot, je sais, que les connaissances soient mieux partagées, parce que tout le monde me dit, ah, vain, oui, mais non, pour moi il faut toujours avoir cette envie-là, parce que sinon on va pas y arriver, et que les avancées scientifiques soient source d'émerveillement plutôt que de fantasmes, parce que souvent les peurs sont des fantasmes, ou même de fantasmes dans l'autre sens, de croire que la science va nous sauver de tout.
Bah non. Oui, oui, c'est ça.
Il y a un équilibre. C'est, la science, c'est ce qu'elle est. C'est-à-dire, elle explique, elle ne sauve pas. Ce n'est pas plus magique que, bah, que les croyances. Hein. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que la science n'est pas une croyance. Donc voilà. Et qui sait, peut-être que nous tuerons d'ailleurs justement les croyances, les superstitions, les religions, à coup de savoir et de rationalité.
Voilà. Ben voilà quoi.
Alors ouais, s'il vous plaît, laissez-moi penser que c'est possible, parce que j'ai besoin de ce petit moment où je me dis, allez, on va y arriver.
Mais oui, qu'on peut y arriver. Et ben ok, est-ce qu'on passe à la ZIC?
Oui,
ouais, c'est bon.
Avec
allez,
plaisir.
On y va alors.
Appelle-moi Einstein, je te vois. Dans le recoin dark où tu shines, tu te glisses dans toutes mes failles, je te vois. À petite dose, en overdose, ai-je le choix?
Laissez
le choix.
Oh, et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocadu.org. Et on vient d'écouter Thérèse avec No Right Time. Et moi, je trouve ce titre magnifique. Alors, surtout que vous n'avez peut-être pas l'historique de l'histoire de qui est derrière. C'est que Thérèse, elle a dû subir, elle a été contrainte de subir une grève du foie. Ouais. Suite à une maladie grave dont elle parle à demi-mot dans sa chanson. Et en fait, ben, elle a eu l'idée d'en faire un titre où elle parle de ses peurs. Et avec la phrase que je trouve magnifique à la fin, si je ne me réveille pas, c'est qu'il ne m'a pas laissé le choix. Et voilà, je trouve que c'est un titre magnifique et c'est rare des artistes qui, bah voilà, qui parlent bah, de choses comme elle dit qu'on noie dans le bruit souvent hein, pour éviter de parler la maladie, la souffrance, les peurs. Et voilà, bah, je trouve le titre juste magnifique et j'adore Thérèse, donc c'était l'occasion de passer du Thérèse.
Et ben très bien. Voilà.
Et ben Jean-Yves, c'est toi, tu vas nous parler BD.
Ouais, tout à fait. Ce soir, je vais vous parler de la bande dessinée.
Cette voix était très étrange, t'en es conscient quand même.
Des voix ce soir, je vais vous parler de la bande dessinée Vierge, la folle histoire de la virginité de Élise Thiébaud et Ella Bird, sortie aux éditions Le Lombard. C'est sorti là il y a 15 jours, 3 semaines. Ou un mois maxi, je crois. Alors, comme à mon habitude, quelques mots sur les créatrices avant de parler de la BD. Donc, Élise Thiébaud, en fait, elle est journaliste et autrice. Hein, elle a plusieurs livres à son actif, dont « Ceci est mon sang », petite histoire des règles, de celles qui les ont et de ceux qui les font, aux éditions La Découverte en 2017, ou encore L'Amazone Verte, une biographie de l'écoféministe Françoise Daubonne, publiée en 2021. Ella Bird, aka Christelle Pourreau, de son vrai nom, lyonnaise, hein, j'ai appris ça, est illustratrice et elle aussi a plusieurs ouvrages à son actif. Le tout premier qu'elle a eu fait en 2017, c'était sur Molière, chez Casterman, ou encore l'incroyable aventure de Florence Artaud, navigatrice intrépide, en 2022. Voilà. J'en arrive donc à Vierge, la folle histoire de la virginité. Donc la scénariste hein, partage avec nous sa quête, déjà présente dans sa jeunesse, sur la virginité. Alors est-ce que c'était une quête ou une peur? Mais en tout cas, c'est un peu un mélange de tout ça. Donc on partira hein, de sa jeunesse, des questionnements et des peurs qui peuvent être propres à l'ignorance de cette période de vie. En fait, on a plein de questions et pas beaucoup forcément de réponses. Et pour remonter le fil de l'histoire de la virginité. Ok, on va remonter dans le temps, en même temps aussi que l'autrice, elle, avance dans le temps. Donc c'est assez... Enfin, je trouve que c'était... Oui, c'est quand j'ai écrit ça, je me disais, c'est rigolo, en fait.
Bah oui, plus tu apprends, plus tu remontes.
Oui, c'est ça, en fait. Il y a un truc de ce style-là, quoi. Alors, qu'est-ce que la virginité ? Hein
Bah oui, déjà.
Bah oui.
C'est une bonne question.
Doit-on obligatoirement coucher pour ne plus être vierge ? La virginité est-elle forcément liée à la sexualité ? Est-elle un cheval de Troie du patriarcat ? Et l'hymen dans tout ça ? Mythe ou réalité ? Ou juste un moyen de pression sur les femmes ? Et le dieu hymen, ou hyméné, si vous préférez, vous connaissez ? Moi, je ne connaissais pas. Et cette pression à perdre sa virginité comme on perdrait sa carte de bus ou de cantine. Il y avait quelque chose aussi d'intéressant dans ce truc-là, dans cette sorte de pression sociale sur... Et en plus, les mots, quoi. Enfin, bah ce qu'elle disait, perdre sa virginité ou se donner à quelqu'un. Mais en fait, non, on ne se donne pas. On partage quelque chose, mais on ne se donne pas.
Tout au plus, on se prête. Mais... Pardon.
C'est vrai. Oh, j'ai... Allô ?
Ouais, oui.
C'est bon, ok, pardon, j'ai l'impression que des fois mon micro merde un peu. Alors, vous l'aurez compris peut-être, l'idée en fait c'est de creuser hein, sur des mots, des idées préconçues, des mythes et des légendes urbaines, populaires, d'interroger les croyances liées à la virginité. Mais aussi hein, de dénoncer des pratiques liées à la virginité, ou en tout cas qu'on peut lier à la virginité, hein, au contrôle... de celle-ci, de la virginité. Mmh. Hein.
Le fameux drap attaché, tout ça.
Voilà, par exemple. Et donc, évidemment, hein, du corps et du désir des femmes, parce qu'en fait, c'est quand même toujours assez lié, quand même, tout ça. En tout cas, majoritairement.
Ça s'applique qu'aux femmes, en plus.
Oui.
Non, mais pour être clair, la virginité... Oui.
C'est bizarre, mais on se pose vachement la question sur la virginité des mecs. C'est bizarre, hein. Ouais, il y a un truc. Même si, hein, là, encore une fois, dans les faits, en fait, et c'est là où c'est aussi intéressant... Bah, la virginité, c'est pas que ça. Selon les périodes, en fait, être vierge pouvait simplement signifier bah, que les femmes ne dépendaient pas des hommes. Donc,
comme les Amazones, par exemple.
Voilà. Ouais. Tu vois, et il y a quelque chose d'hyper intéressant. En fait, c'est un mot hyper ambivalent, Je sais pas si ouais, ça le fait.
Ambigu,
ouais,
ambivalent.
Ambigu,
ouais.
Ambivalent. Donc, on passera donc ainsi hein, de la période contemporaine au Moyen-Âge, en passant par l'Antiquité, ou jusqu'à l'Antiquité en passant par le Moyen-Âge. Enfin, vous mettez ça dans l'ordre que vous voulez. De l'Europe à la Perse, de Freud à Ibn Sina, en passant par Artémis. De deuxième sexe de Beauvoir au conte Les Mille et Une Nuits. Des 70 ou 72 ou 6000 ou 600 ou 8000 vierges des djihadistes au Mozo en Chine, qu'on appelle aussi la société sans père ni mari, bah en fait l'autrice elle se limite justement pas en fait à l'Hexagone ou à l'Europe, et ça aussi c'est hyper intéressant parce qu'en fait on se rend compte que bah le mythe de la virginité étant présent partout. Quand même partout ou presque.
Un peu trop d'ailleurs.
En fait, ça aurait été idiot effectivement de se limiter à une lecture hexagonale ou européenne en fait. Et ça aussi, je trouve c'est hyper intéressant quoi. Et elle aborde aussi, alors toujours pareil, alors, c'est plus ou moins long, etc. Mais des sujets tels que le vaginisme, les mutilations sexuelles, le crime d'honneur, les traditions horribles ou amusantes. Parce que oui, il y a des traditions qui sont absolument horribles. Il y a des traditions qu'on peut aussi juste se dire bon c'est marrant ou c'est un peu idiot, mais voilà, ça fait pas plus de mal que ça quoi, on va dire hein. Donc voilà, et si tout cela, la virginité hein, et ce qui l'accompagne n'était en fait qu'un moyen de contrôler les femmes, leur corps, leur sexualité et donc leur liberté, et si la virginité encore une fois n'était qu'un cheval de Troie du patriarcat ou pas, c'est là que c'est vraiment c'est... Tu ressors de là, tu dis ah ouais, mais en fait c'est un petit peu plus complexe que juste ce qu'on peut avoir, en tout cas ce que moi j'avais comme idée sur la notion de virginité quoi. Bref, hein, vous l'aurez certainement compris, j'ai bien aimé cette BD, tant sur le plan historique, hein, enfin, il y a un vrai travail journalistique, d'enquête, etc., de recherche.
C'est presque un roman graphique, parce qu'il paraît qu'il faut dire ça maintenant.
Non, mais justement, en fait, c'est de la BD, c'est pas grave, il y a des BD qui sont horribles, et il y a des BD pour apprendre. En fait,
ouais, c'est...
Mais moi je l'utilisais aussi, en fait, c'est vrai que tu dis, mais. Comme s'il fallait distinguer en fait une BD, on va dire pédagogique,
non,
avec
d'accord.
Une BD. Enfin bref, pardon.
Je taquinais sur ce tout.
Ouais, ben c'est pas drôle. donc j'ai adoré tant comme dit hein, sur le travail journalistique, etc. Mais aussi sur les dessins modernes, amusants aussi parce que ça répond à des informations qui sont diffusées dans une bulle au-dessus, etc. Donc c'est hyper, il y a une sorte d'interactivité en fait entre le récit et l'image et tout ça avec vraiment beaucoup d'humour malgré des sujets, enfin un sujet qui est pas toujours très sympa. Donc c'est vraiment ça, j'ai adoré. Après perso, je pense qu'on aurait pu leur permettre d'avoir quelques petites pages supplémentaires.
C'est dense, tu veux dire ?
Ouais, parce que vraiment 90 pages. Mais t'en bouffes de l'info, mais incroyable quoi. Enfin, c'est, il y a vraiment des pages où c'est quasi couvert de bulles. Il y a quelques places pour des dessins des personnages, mais c'est vraiment dense. Donc après, en soi, c'est pas dramatique, mais c'est juste que oui, c'est hyper condensé parfois. Mais après, c'est pas grave. On réouvrira le livre régulièrement pour se dire tiens, il y avait ça, j'ai pas tout retenu, je vais relire. Donc voilà. Et puis bah. J'adorais cette phrase qui est rappelée et j'avais envie de la rappeler aussi, c'est n'oubliez pas que les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent en fait. Et c'est là sûr, aussi, ouais. Ça prend du sens dans la BD. Donc je rappelle, hein, c'est Vierge, la folle histoire de la virginité, d'Élise Thiébaud et Eléa Bird aux éditions Le Lombard.
Mais c'est bien, enfin, je trouve que c'est bien qu'il y ait une BD qui parle de ça, enfin, des livres, voilà. Ouais. Mais alors le format BD, pourquoi je dis c'est bien qu'il y ait une BD, parce que on sait aujourd'hui que la BD, comme qui est si méprisée, c'est un des vecteurs de lecture des plus jeunes.
Ouais.
Et c'est cool parce que du coup, ce sujet de la virginité, de la pureté, de la comment on appelle ça quand on est quand il faut être humble quand on est une femme, j'ai perdu le nom.
Effacé. Non.
Ouais, non, mais j'ai perdu. Enfin tout ce qui court aujourd'hui de plus en plus, qui revient par les réseaux sociaux notamment, et pas que, parce que faut arrêter...
La pudeur.
La pudeur, ouais, c'est ça. En fait, si on a des outils pour les réinterroger, c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, il va falloir aller aussi sur les terrains où se trouvent justement les prêcheurs de pudeur, de tout ça, voilà, qui, eux, font des très très bons dessins animés, BD, tout ça, et c'est bien, des fois, de les contrer avec aussi un outil plutôt... on va dire léger d'un certain point de vue et profond dans ce qu'il véhicule.
C'est exactement ça, c'est ça. Je vais continuer quand même avec autre chose. Hein. C'est alors le 10 avril 2022 et le 2 octobre de la même année, je vous avais parlé d'une BD qui s'appelle Ladies with Guns, tome 1 et tome 2, c'est d'Olivier Bocquet, d'Anne-Laure et d'Elvire de Coq chez les éditions d'Argo. Et je ne pouvais pas ne pas vous dire que le tome 3 est sorti depuis moins d'un mois. Alors pour rappel, hein, en tout cas pour rappel, où je vais resituer en tout cas les choses, on est dans l'Ouest américain, hein, fin 19e, du 19e. On retrouve donc les 5 ladies, parce qu'elles sont 5. Alors je vous invite évidemment à lire les deux premiers tomes si vous ne l'avez pas fait, courez-y. Alors les 5, pas vraiment. 4 en fait sont mises en prison, hein. Kathleen, la bourgeoise anglaise, Shumani, une indienne, isolée de sa tribu massacrée, Daisy, l'ancienne instite, et Casey, danseuse et prostituée noire, et qui est aussi enceinte. Petit détail, mais quand même. Et en fait, elles seront, on va dire, le cœur de la BD. Quant à Abigail, ben en fait, on aura de ses nouvelles au travers aussi de flashbacks sur son enfance d'esclave, en fait. Parce que, pour pas tout spoiler, dans le premier...
Ah non, spoil pas.
Ok, alors je dirai. Alors, entouré hein, de gardiens et de prisonniers qui n'ont qu'une idée, hein, qu'une envie, qu'on s'entende bien, c'est violer les quatre prisonnières, et ben même sans leur gun, en fait, ben, elles l'entendent pas ainsi, et elles sont pas non plus du genre défaitistes, en fait. Hein. Donc là, elles ont à peu près tout le monde contre elles. Et donc, ben, une seule option envisageable, s'évader. Mais en attendant, bah, il faudra subir les travaux forcés, les humiliations et les violences. Donc c'est toujours aussi décapant, toujours explosif, rythmé, toujours aussi marrant, politique, féministe, et toujours aussi bien scénarisé, mis en dessin et en couleur. Enfin moi je suis absolument fan, je ne suis absolument pas objectif quand je vous parle de cette BD, mais parce que vraiment, c'est absolument délicieux quoi.
C'est la dessinatrice
Anne-Laure.
Anne-Laure, ouais. Oui. C'est ça, parce que moi vraiment, chapeau, j'adore ce qu'elle fait.
Ben oui, et alors, après moi je vous invite aussi, bah, c'est Anne-Laure par exemple, vous pouvez la suivre sur alors, les réseaux socio-commerciaux, mais en tout cas je trouve que c'est là aussi où c'est hyper intéressant, c'est qu'elle montre beaucoup de son travail en fait, comment elle va créer ses dessins, les techniques, les techniques qu'elle utilise, etc. etc.
Ben, elle fait des masterclass de BD, ouais. Je trouve ça assez cool, ouais. De prendre le temps d'expliquer comment on fait une BD. Quoi.
Ouais, non, c'est super cool, donc je vous rappelle, parce que je vais pas faire 3 heures dessus, hein, mais Ladies with Guns, tome 3. D'Olivier Bocquet, d'Anne-Laure au dessin et d'Elvire de Coq pour les couleurs, et c'est toujours aux éditions d'Argo, et on peut se rassurer parce qu'il y a un petit autocollant.
Ce que j'allais dire, vas le dire ou pas?
Mais oui,
tu vas le dire.
C'est que c'est le troisième volet, le troisième tome du premier volet, on va dire. Donc on sait bien, c'était pas prévu au départ, mais cette série, cette aventure des Ladies with Guns va continuer encore au moins, je crois, sur 3 tomes. Donc moi j'ai hâte. Mais d'ici
mais oui,
là,
c'est ça qui est,
vraiment,
c'est...
je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à lire cette BD parce qu'elle est. Enfin, je trouve qu'elle est, elle est riche de plein de choses, ouais. En fait. C'est vraiment assez dingue parce que. Mais je l'avais déjà dit pour les deux premiers tomes, mais en fait, c'est-à-dire que déjà, on a 5 meufs qui sont complètement différentes. Comme dit, on a une esclave, on a une meuf qui vient d'une tribu qui a été massacrée, on a une autre qui est une colon finalement, hein, etc. Et en fait, il y a un truc qui arrive à fonctionner.
La sororité.
Tout en étant des fois dans des conflits, ouais. Et dans des tout ça, et ça soulève toujours des interrogations aussi, j'ai envie de dire, contemporaines. Alors c'est peut-être malheureux parce que finalement on peut se dire, si l'histoire se passe au 19e, on a quand même avancé dans le temps, mais finalement...
Pas toujours.
Ouais, c'est ça, en fait.
Ou pas assez.
C'est ça. Et, mais qu'en même temps, enfin, ouais, on retrouve 5 meufs qui ont de la niaque, quoi. C'est juste énorme. Elles ont juste envie de tout faire péter. Et c'est ultra plaisant.
Et moi, je le dis, mais parce que j'y ai pensé comme ça. Si Quentin Dupieux voulait en faire un film, il en ferait un super film. Mais voilà. Mais
je suis pas sûr.
Bon, c'était mon idée. Ou quelqu'un qui sait faire un film un peu.
Parce que là, t'étais quand même dans un.
Ah non, oui, j'ai dit Quentin Dupieux, c'était pas du tout à lui que je pensais. Parce que là, j'avais dans la tête que je voulais aller voir Dali. Rien à voir. Voilà. Non, je pensais à. Mais j'ai perdu son nom. Un réalisateur. Mais j'ai perdu son nom. Pardon, je l'ai squitché. Oui, du tout, pas du tout Dupieux. Mais il faudrait quelqu'un. Mais je trouve que ça ferait un très bon film.
Ah,
vraiment.
Oui,
ou une série, je sais pas.
Oui.
Mais quelque chose. En fait, voilà. Mais ça reste une BD. Mais je trouve qu'un autre support serait aussi assez intéressant.
Ouais. Après, il faut être à la hauteur du.
Ah, faut être à la hauteur de la BD, hein, parce
la
que.
BD, parce ouais, que vraiment, elle est absolument délicieuse. Donc,
et je retrouverai le réalisateur que j'avais en tête, mais que j'ai perdu, que j'ai remplacé.
Donc, je vous rappelle les deux BD du soir, on va dire. C'est Vierge, la folle histoire de la virginité d'Élise Thiébaud et Ella Bird. Et la dernière BD dont je vous ai parlé, c'est Ladies with Guns, le tome tome 3 d'Olivier Bocquet, d'Anne-Laure et d'Elvire Decoq chez Éditions d'Argot. Et n'hésitez pas, si vous avez des retours à faire, si vous les avez lus, si vous avez aimé ou pas d'ailleurs. Enfin, vraiment, ça serait cool.
Et puis, vous pouvez aller les chercher en médiathèque si vous voulez pas aussi. Les acheter aussi, parce que c'est cher quand même aussi de la BD.
C'est pas faux.
Donc voilà, du coup, si vous n'avez pas les moyens, ce qui n'est pas une honte, hein, c'est très bien, mais les médiathèques et les bibliothèques, c'est fait pour ça. Et s'ils n'y sont pas, demandez-les.
C'est ça.
Mais oui, non, mais c'est vrai.
Mais oui, exigez-les.
Mais non, mais des fois, ils connaissent pas. Mmh. Vous faites connaître la BD, et là, voilà, après, ça permet à d'autres de la connaître, c'est super bien, quoi.
Ouais. Et ben voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On passe à la ZIC?
Ah, bah, il faut à un moment donné.
Allez.
Sois silencieux, sois poli, surtout pas.
De retour dans la causerie, toujours sur Radio Canu. Oui, la fin est un petit peu brutale.
Abrupte.
Tout à fait.
Mais quel magnifique titre.
Oui, j'ai trouvé aussi. Ouais. Comme quoi, des fois, quand on fait des petites recherches un peu thématiques, eh ben, on tombe sur des trucs qu'on connaissait pas et c'est super cool. Donc, c'était June Milo avec le titre Les filles sages.
Ouais.
Tout
très bien.
Tout lien avec les sujets que j'ai parlé, des BD dont j'ai parlé.
Pour un hasard.
Ne serait pas un hasard. Et ben, Fab, t'as quelques brèves.
Oui, si alors la première, c'est demain matin, entre 8h et midi. Il y a la Confédération Paysanne et la Fédération Française des Apiculteurs Professionnels qui organisent une action Place Bellecour en réaction aux annonces du gouvernement face au mouvement des agriculteurs et agricultrices. Alors, c'est tout simplement que retarder encore une fois le plan phyto, c'est-à-dire le fait de pouvoir balancer des produits phytosanitaires, on dit phytosanitaires, mais c'est des pesticides, voilà, sur les plantations, ça va avoir un impact énorme sur les abeilles, parce que je vous rappelle quand même que le ministre de l'Agriculture a laissé entendre qu'on réautoriserait les nicotinoïdes, ouais. Voilà. Les apiculteurs, ils commencent à flipper parce qu'ils disent, on sait que c'est pas forcément que ça qui fait la mort des abeilles, mais que ça aide pas. Et voilà, donc du coup, il y a vraiment l'envie demain de vous sensibiliser à cela. Et c'est entre 8h et midi. Donc si vous avez envie d'aller soutenir les agricultrices et apiculteurs, Place Bellecour, c'est l'occasion d'y aller. Et en plus, avec la Confédé des paysannes, et nous, à la Rive Causerie, on aime bien la Confédé. Voilà. Donc, pas sur tout, mais sur beaucoup de choses.
On préfère que la FNSEA
clairement.
Coordination rurale.
Ah ben ça c'est sûr.
Évidemment.
Il n'y a pas photo. Donc voilà. Et sinon, j'avais une autre info, donc c'est vendredi 9 février, il y a une soirée de solidarité anti-répression qui se tient. Alors je vous rappelle que le principe d'une soirée anti-rep, c'est de faire des sous, mais des fois il y a besoin de pognon, notamment pour payer des avocats, parce qu'ils ne travaillent pas gratuitement tout le temps. Donc voilà, ce qui est normal. Et donc c'est en soutien, et donc c'est la Caisse de solidarité de Lyon et aussi les caisses de solidarité pour les camarades arrêtés durant le mouvement des retraites qui montent cette soirée. Et donc il y aura du post-rock par les duos Grange avec Ethic et Anicomac. J'arrive pas à le dire. Anicomac, pardon. Il y a Bas-Relief qui fait de l'électro-techno 7 en live machine. Et il y a. J'espère que ça se dit comme ça. Erisis, qui fait un DJ set. Et c'est à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff, à partir de 19h jusqu'à 23h30. Et c'est l'occasion vraiment de montrer votre solidarité, tout simplement.
C'est ça.
En écoutant de la bonne zik. Enfin, j'espère. Je ne connais pas tous. Parce que là, je vous ai vendu un truc.
T'avances pas trop.
Ouais, en écoutant de la musique.
Ouais,
c'est pas le temps, je peux dire.
C'est ça. Ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Si, quand même, on va vite fait vous rappeler avant de passer au dernier titre et vous dire au revoir. On vous rappelait que si vous voulez nous écrire, évidemment, alors si c'est pour nous laisser des commentaires, ça se passe sur le blog, par exemple pour les émissions autour de BD ou autour de la science, etc. N'hésitez pas à laisser vos avis, vos commentaires, quoi, sur le blog. Donc c'est à blogs.radiocanu.org/lacauserie. Sinon, vous tapez la causerie Radio Canu sur votre petit moteur de recherche, quel qu'il soit, et vous devriez normalement tomber sur nous. Quoi d'autre? Il y a toujours le podcast que vous retrouvez sur différentes plateformes.
Normalement toutes, mais il faut bien taper la causerie Canu, parce que si vous tapez la causerie, il y en a plein.
C'est ça.
Mais sinon, vous voulez. Mais c'est la causerie Canu, la seule, la vraie.
Ouais. C'est ça. Et puis, si vous voulez nous écrire, si vous êtes artiste, auteur, autrice, ou une asso, ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à nous envoyer un mail. Ça se passe à lacauseriecanu@gmail.com. lacauseriecanu, tout attaché en minuscule, donc lacauseriecanu@gmail.com. Je crois que j'ai tout dit.
On est aussi sur Facebook, mais c'est juste pour partager.
C'est ça.
D'ailleurs, on partage qu'aux vieux, a priori, maintenant.
Oui, sur Facebook, c'est que les vieux. Hein. Donc, si les jeunes voulaient partager une émission de vieux, c'est gentil.
On vous en sera gré. Merci d'avance. Bisous.
Oh merde. C'est l'heure de se quitter en musique. C'est toi qui annonces le titre.
Ouais, alors c'est un groupe que moi j'adore, que peu de gens aiment. Je me fais plaisir. C'est Magoyonde. Et Magoyonde, ils font du métal zombie. C'est le style qu'ils ont inventé, le métal zombie. Et là, ils vont vous chanter une chanson. Ça devrait être l'esprit un peu vieux. Et nous allons écouter un titre de Magoyonde avec Catacombe. Catacombe, c'est l'armée des Catacombes. catacombes qui se soulèvent pour venir renverser le monde.
Ah ouais.
Ouais. Merde. Rien que ça. Bah, je vous ai dit, c'est du métal zombie.
Oui, c'est vrai. Donc on se fait dessus là. Ok. Donc... Eh ben. Pardon. Je... Ok. Eh ben, on vous donne rendez-vous nous dimanche prochain. 22h, 23h évidemment environ sur le 102.2 de la bande FM à Lyon.
Sur Radio Canu.org, partout ailleurs, voilà. Et même à Lyon, ça marche aussi à Lyon.
Selon les endroits où on est, la radio, ça passe pas très bien.
Mais oui, tout à fait.
Et ben voilà, bonne écoute pour la suite de la musique et des bandes continues toute la nuit. Et puis ben la semaine prochaine, des bises, à bientôt.
Des bisous, ciao. Salut.
Leurs fous fuitement s'affûtés remontent vers la